Eh bien, mon papa est en train de se baigner à la plage et c'est moi qui vais tout raconter.
Comics Outcast. Comics Outcast.
Yeah.
On est de retour sur la plage de Biscarros avec Anthony et Lulu. Et donc Sam m'a battu au Jokari, ce qui veut dire que ce sera son tour cette semaine de nous parler de son comics, le comics qu'il lit présentement à côté de nous sur la serviette de la plage. Et déjà bonjour Anthony.
Et bonjour Adrien, et bienvenue à Biscarros mon gars.
Et bonjour à Lulu.
Salut.
Salut Lulu.
Bisca salut.
Ah oui, Bisca salut, parce que Biscarros c'est tout. Bisca truc.
Bisca, ouais.
Bisca lac, Bisca bourg, Bisca burger.
Bah du coup je vais lire mon Bisca comics.
Alors, le Bisca comics de cette semaine, ta sélection estivale.
Ouais, c'est un petit bouquin qui me fait de l'œil depuis un moment dans la petite librairie qui est à côté de mon boulot, que j'ai fini par acheter. Un peu déçu d'ailleurs, si je l'avais acheté un tout petit peu plus tôt, j'aurais eu la petite couverture en plastique en plus qui protège bien là, qui est super belle. Et bon, moi je l'ai acheté trop tard, donc j'ai eu la version sans.
Tant pis, donc du coup il n'est pas imperméable.
Il n'est pas imperméable, non.
Tu ne peux plus le lire dans l'eau.
Non, mais je peux toujours le lire sur la plage. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui.
Oui.
Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une bande dessinée franco-belge qui est éditée chez Delcourt. C'est un livre écrit par Boulet. Boulet qu'on connaît bien, qui a commencé avec Ragnarok, qui est une petite histoire de dragon pour plutôt enfants. Qui est très connu parce qu'il est l'un des premiers auteurs à avoir beaucoup travaillé sur Internet, à faire un blog.
Un des premiers BD blogueurs.
Tout à fait. Et dont les meilleures notes, comme il les appelle, ont été publiées dans différents livres. Donc il sélectionne lui-même.
Astucieusement intitulé Notes.
Notes, tout à fait. Voilà. Qui sont vraiment géniales. Moi, je crois que la première fois que je l'ai découvert, c'était dans Donjon Zénith, puisqu'il a repris la main au dessin. En tout cas de Trondheim sur la partie Zénith. Il a fait les donjons 5 et 6. Puis après ça, il a fait énormément d'autres choses. Je crois qu'il a bossé un peu sur des dessins d'Axolot. Il a fait la rubrique scientifique et énormément d'autres choses. J'ai la liste là à la fin du bouquin. Mais que je ne vais pas vous lire parce que c'est vraiment énorme. Et au dessin, on a Assein, je pense que ça se prononce comme ça. Je ne sais même pas si c'est un dessinateur ou une dessinatrice. C'est un dessinateur, me dit Lulu.
Un dessinateur.
Que je ne connaissais pas, mais dont j'apprécie énormément le travail dans cet ouvrage.
C'est vrai que je le vois de loin, ça a l'air très beau.
Ouais, c'est magnifique. Alors, donc, on va intituler quand même ce livre. Il s'agit de Bolshoi Arena.
Ah oui, t'avais toujours pas dit le titre. Mais quel teaser,
tout à fait. Et donc là, il s'agit du tome 1 qui s'appelle Caelum Incognito. Et donc, on ouvre les premières pages.
Ah oui, Thomas, je connais bien, c'est celui qui joue dans Forrest Gump.
Oui, tout à fait. On s'arrêtera là. Et donc, l'histoire commence avec deux personnages, Marjorie, qu'on appelle régulièrement Marge, et Dana, qui sont en train de se mettre en combinaison, qui font d'ailleurs des petites blagues de type « Ah ben dis donc, c'est marrant quand même, ces combinaisons, elles font quand même science-fiction, un petit peu rétro, ouais, mais je crois qu'à la base, c'est le but et tout ça. » Donc elles enfilent leur combinaison. En gros, on a Dana qui est en train d'expliquer clairement comment ça se passe à Marjo, qui découvre les lieux et ils se mettent dans une sorte de capsule. Et pour la première fois, Marjo va faire un saut dans l'espace depuis un vaisseau géant qu'on voit au bord d'une planète. Moi, clairement, ça me fait penser à un Nostromo au début d'un Alien. Et c'est vraiment classe. J'en dirai plus sur le dessin plus tard, mais c'est vraiment très très beau. Et t'as tout cet univers SF qui est très présent. Et donc elle plonge dans l'espace et elle se rapproche d'une planète ou un satellite, hein, ça pourrait très bien être un satellite, dont on ignore le nom, on ignore tout, s'approche, elle dit « Waouh, c'est J'ai jamais rien vu d'aussi beau, c'est hallucinant. Elle a un peu peur de ne pas vraiment assurer. Sa copine Dana lui dit « Mais vraiment, t'assures comme une dingue. Moi, la première fois que j'ai fait ça, j'ai vomi et tout. » Donc voilà, t'es plongé dans cet univers-là directement. Et puis après, tu comprends pas très bien. Ils arrivent vers une espèce de station qu'on voit pas, on voit pas vraiment où est-ce qu'elle est. Ils entrent dans cette station, ils retirent leur scaphandre et se mettent en tenue civile. Et elles entrent dans une sorte de hangar gigantesque où y a plein de vaisseaux, des espèces de robots, beaucoup de gens, on dirait un peu une foire, c'est des grands hangars. Ils nous expliquent que ces hangars-là servaient surtout au début de la colonisation et que là maintenant c'est très bien pour débuter. Alors, on ne sait pas pour débuter quoi vraiment. Marjo demande à Dana si elle peut prendre n'importe lequel des vaisseaux qui sont là. Elle dit oui, c'est des vaisseaux de base, quoi. Tu pourras en avoir mieux plus tard. Et justement, je vais te présenter mon copain Carlos qui me doit une faveur et qui lui va te faire ton vaisseau un peu de A à Z comme tu l'entends. Il va falloir que tu le dessines et il va t'aider. Et puis on va te faire un super vaisseau. Il m'en doit une et du coup il rencontre ce Carlos. Voilà, on découvre un petit peu cet univers.
Est-ce qu'il lui fait des big bisous ?
Il lui fait pas des big bisous, il lui serre une main. Ce Carlos, on dirait, on sait pas si c'est un personnage qui est dans une exo-armure et du coup qui fait qu'il est très grand avec des bras mécaniques et tout ça, ou si c'est carrément un cyborg. On sait rien, ça n'a pas vraiment d'importance en soi, mais graphiquement ça a de la gueule.
Okay.
Et donc on continue. Et puis avant de partir, Dana dit à Carlos, mais attends, est-ce que je peux te tuer là avant de partir?
On dirait comme si c'était un jeu vidéo tout ça, non?
Ça commence à être un peu chelou. Moi j'étais vraiment dans l'univers SF, j'avais pas lu du coup le résumé encore à ce moment-là.
Ouais.
Je me dis, oh oui, c'est bizarre, ça commence à devenir chelou. Mais ce qui rend le truc encore plus étrange, c'est Marjorie qui semble vraiment pas du tout à l'aise avec le fait qu'on tue quelqu'un, quoi que ce soit. J'aime pas la violence, non, t'es pas obligé de faire ça. Et Carlos dit, non, me tue pas, va plutôt voir Steph qui est là-bas. Lui il faut rien, de toute façon, tu peux aller le tuer.
Okay.
Et donc. Dana et Marjo vont voir Steph. Steph dit non, je vais pas me faire tuer par une nana de ton niveau. Qu'est-ce que ça va rendre sur mon dossier?
Ouais.
Clairement. Et du coup, en fait, il négocie une somme d'argent pour pouvoir se faire sortir.
Okay.
Et du coup, elle le désintègre. Bon, là, clairement, on comprend qu'en fait, on est dans une sorte de jeu vidéo, effectivement. Marjo retire son casque. Et en fait, on est dans une réalité virtuelle.
Oh là là, c'est un peu Black Mirror, tout ça.
Ouais, un peu non. Black Mirror, c'est un peu plus...
C'est une blague.
Je cherche une autre référence. Le film de Spielberg, là...
Ready Player One.
Ready Player One.
Merci. La merde.
Oui, là, on a une version beaucoup plus cool, du coup.
Ah, tu veux dire que Bolshoi, là,
c'est
un petit peu...
Charmé.
C'est mieux.
Ouais. Et du coup, on va découvrir un petit peu donc cet univers, ces deux filles. Donc, en fait, on pense au début, je pensais que c'était les deux, mais clairement, le personnage principal, c'est Marjo, qui découvre cet univers, qui est complètement noob et qui en fait fait une thèse scientifique sur le satellite de Titan. Et c'est très important parce qu'en fait, l'univers du Bolshoï, c'est un univers qui est calqué sur notre univers à nous. Et qui essaye donc de recréer les planètes, les satellites et tout ça, avec toutes les données scientifiques possibles que l'on ait. Et c'est à la fois un jeu, il y a des actions qui se passent, c'est des choses qui se créent, des compagnies, c'est très très cadré. Mais en même temps, tu as tout un univers de tests, en fait, de tests scientifiques pour essayer de découvrir un petit peu. Cet univers et puis pouvoir aller le voir et faire bosser son imagination pour essayer de concevoir les moyens de conquérir davantage l'espace parce que on est dans un futur proche mais on a marché sur Mars, on a conquis Mars et on commence à espérer se développer dans l'univers.
En fait c'est un petit peu comme si Star Citizen avait finalement rempli le contrat des promesses qu'ils avaient fait dans leur Kickstarter.
Voilà.
Mais voilà.
C'est pas fait.
Mais non.
Le casque, par contre, crée vraiment une sorte de lien avec le personnage parce qu'il y a des moments où il y a des lags qui sont très importants. En fait, tout l'univers est très très bien construit, tout est bien calé. T'as des lags qui sont des moments précis où le Bolshoï déconne et toutes les personnes qui sont dedans sont tuées et donc déconnectées. Quand tu meurs, tu as un temps avant respawn. À chaque fois, et lorsque ça lag, les personnages, enfin les personnes qui sont connectées ressentent de la douleur et ressentent des choses réelles, vraiment. Et donc voilà. Et du coup, en fait, ce personnage de Marjo arrive dans cet univers et est vraiment très douée pour une noob. Elle commence par se mettre à dos des grosses compagnies, dont les compagnies de titans dont elle est allée sur satellite de Saturne. Et pour découvrir un petit peu comment c'était son rêve, elle est complètement ébahie en voyant ça, même les pluies de méthane.
Elle est ouf, ouais, parce qu'il pleut.
Ah ouais. Et arrivent des drones de la compagnie qui a pris ce territoire, parce qu'il y a quand même ce jeu qui est là bien présent. Et du coup, elle défonce des drones du premier coup, vraiment de façon incroyable. Et toutes les personnes de son entourage qui connaissent bien le jeu sont vraiment ébahies par ses exploits. Ils se demandent vraiment comment c'est possible qu'elle arrive ça avec son niveau en découvrant à peine le jeu. Et ses adversaires aussi. Du coup, elle se crée déjà des univers, enfin des rivalités, des tensions, et puis des sanctions qu'elle se prend dans la tronche, et qui va la pousser à devoir faire des missions qu'elle avait peut-être pas forcément envie de faire, faire des choses pour pouvoir essayer de retourner sur Titan. Et puis le lien entre le monde réel et le monde virtuel est vraiment très, très bien foutu. Les deux sont présents et il y a toute cette idée de temps qu'il faut passer dedans, de vie qu'on gâche ou qu'on gâche pas, les expériences qu'on peut mener à travers ça. Tu retrouves toute la finesse d'esprit de Boulet dans ça, dans toute sa vision un petit peu du monde. Tu te dis, ouais, le mec, il a une vision quand même super chouette des choses et très intelligente. Et c'est vraiment chouette d'avoir ça en histoire et d'avoir quelque chose de complet et construit.
Est-ce qu'il y a parce que ça s'appelle Bolshoï Arena, est-ce ouais. qu'il y a un lien avec le Bolshoï ou genre, enfin, pourquoi Bolshoï? Genre, est-ce qu'il y a un côté russe ou je sais pas?
Y a une esthétique un peu soviétique, disons, c'est un peu la conquête de l'espace au moment où l'URSS était dans la course. Je pense que c'est ça surtout le lien, l'univers a été imaginé un peu à partir de cette esthétique-là. Mais après, non, il n'y a pas de. Enfin, avec la compagnie de danse, c'est ça, russe. Non, je ne vois pas de. Je vois pas de. Je pense que c'était pour avoir un nom russe.
Tu crois?
je pense.
Ouais.
Il y a des sortes de. Enfin, il y a un symbole qui ressemble à des lettres de l'alphabet cyrillique, donc c'est un peu. Voilà, ça joue un peu.
Tu trouves?
Pour
moi, c'est un A et un B pour Arena Bolshoï ou un truc comme ça.
Ouais, mais c'est un peu genre, toi, un peu.
Ouais. Peut-être bien.
Ça m'évoque ça. Après, j'ai jamais fait de russe, donc je suis désolée d'avance si je dis n'importe quoi.
Bon, graphiquement, après, c'est très beau, hein, pour passer sur le graphisme. Ça fait penser à des traits assez manga. Les personnages peuvent me faire penser un petit peu aux traits de Bastien Vivès à certains moments. Il y a de la trame, mais de façon très bien foutue. Moi, j'aime beaucoup la trame, de toute façon. Et les couleurs sont des couleurs très pastel, dégradées. Pareil, on revient dans une esthétique très SF des années 70, quelque chose de vraiment très joli. Tout ce qui est univers, les vaisseaux, ils sont très classe. Tout l'univers graphique est vraiment très bien réussi, très bien rendu. Les personnages sont assez cool. T'as des petits personnages. Du coup, comme t'es dans un univers de réalité virtuelle, tu peux avoir toutes sortes de choses. T'as le petit ami, par exemple, de Marjo, qui est comme avatar, un petit renard tout mignon, tout kawaii. Et t'as un petit peu tout ça qui se mélange.
Et non pas son tatami, parce que sinon ça serait un tapis de combat.
Oui, tout à fait. Les personnages évoluent aussi dans Paris, mais un Paris un peu futuriste. Et c'est assez sympa à voir. T'as des petits clins d'œil, genre à Nation. Tu vois que t'as les lignes 1, 2, 6, 9, A, et puis une ligne 18 qui apparaît. Tu vois des petits trucs comme ça, c'est assez marrant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Comme ça, j'aimerais bien vite fait faire le pronostic de ce que pourraient en penser nos petits collègues. Donc, il y a des vaisseaux, des drones et des cyborgs. Donc, à mon avis, ça plaira à Grégo. Il y a un personnage principal féminin fort. Donc, à mon avis, ça plaira à Nivrae. Il y a une ambiance SF avec des vaisseaux dont on voudrait franchement trop les toys. Donc, ça plaira à Joe. Il n'y a pas de perso de chez DC, donc ça devrait plaire à Ike. C'est tout simplement sublime et Boulet, c'est le chef, donc ça plaira à Ben. C'est fin et bien foutu, donc ça plaira à Ketrus. Ça déroule de ouf, donc ça plaira à Zef. Et j'aimerais bien savoir si vous, comme ça, ça vous plairait ou pas.
Alors moi, je vais tricher parce que je l'ai lu. Donc j'ai beaucoup aimé, effectivement. C'est très beau, très bien écrit. Et j'ai hâte de lire le tome 2.
Ouais, bah, là, de ce que je vois par-dessus ton épaule, alors le pitch, déjà, j'aime beaucoup. Et de ce que je peux voir là sur ta serviette, ça m'a l'air franchement ultra beau. Je pense que je vais te le piquer. Si c'est le tome 1, ça veut dire que le tome 2 est prévu. Et est-ce que tu sais si ça sort bientôt tout ça?
Alors j'étais en train de regarder justement, j'ai oublié de vérifier ça. Alors juste pour dire, le tome 1 est sorti en septembre 2018.
Okay.
Je sais que le scénario est fait, j'ai aperçu ça. Donc le scénario est terminé, je ne sais pas quand sort le tome 2. Faudra chercher, au pire je mettrai les infos si je les trouve sur le Boya Comics Club.
Ok, super.
Moi, je le suis Assain sur Instagram et il a contre-teasé en disant que ça serait certainement janvier 2020, mais que ça pourrait être tout aussi bien janvier 2032. Donc,
ok.
Mais ce qui est fou en fait, quand on voit le détail des dessins, des vaisseaux en particulier, c'est incroyable. Et c'est assez intéressant de le suivre sur Instagram parce que du coup, on a le work in progress et c'est dingo.
Bah justement, ça permet de rebondir aussi sur le fait qu'il y a des espèces de petits logos du Bolshoï Arena que tu peux scanner grâce à l'appli Delcourt Soleil Plus,
ouais,
que tu trouves sur
Plus Mega Premium,
quoi, et qui permet, lorsque tu scannes une page, de voir les différentes étapes de fabrication. Et la première, donc, c'est le storyboard qui est réalisé par Boulet.
Ouais.
Ensuite, tu as l'ancrage. Enfin, a priori, je pense que Assain ancre directement, puisqu'il n'y a pas d'étape de rough, a priori, donc en noir et blanc, avec la trame déjà posée. Et ouais, ensuite, l'étape de couleur. Et ça, c'est assez cool. Et puis, ça apporte à l'expérience le côté. Enfin, on est quand même totalement en lien avec la réalité virtuelle.
Ouais, ouais. Là, dans ce contexte précis, ça marche.
Ouais.
C'est un truc qui, pour moi, genre, est toujours un peu. Tu sais, il n'y a pas d'usage, quoi. Enfin, sortir ton téléphone pour scanner ta BD, la regarder et tout, c'est quand même un peu compliqué. Mais là, en l'occurrence, le contexte, il prête vachement, je trouve. Et je t'ai vu faire, je me suis dit, la pression que ça doit être quand même quand Boulet, qui est bon, quand même un peu un tueur en dessin,
ouais,
te file son storyboard et que toi, tu sais, tu dois redessiner par-dessus. Et forcément, ouais, genre, lui, il ne donne que des indications, tu vois.
Oui.
Et donc, tu dois être en mesure de lui dire. Non, j'ai refait là un peu mieux. ça doit être quand même.
Après, je sais pas si t'as vu, mais c'est pas très détaillé. On est plus sur du bonhomique. Et du coup,
ouais, mais Boulet, quand il détaille pas, c'est quand même.
Oui, bon, non, mais ça tue déjà de base.
C'est pas même Monsieur Patate, quoi, tu vois.
Ouais.
Eh ben, je te le piquerai.
Ouais, avec plaisir. Est-ce que tu veux qu'on parle vite fait de Boulet? Parce qu'il a donné quelques infos. Je sais que toi aussi, et je pense que Lulu, vous avez suivi le Twitch qu'il a fait. Non, Lulu, tu l'as pas suivi. Il a fait un Twitch récemment parce que du coup, à Angoulême, en 2019, donc janvier 2019, Svar et Trondheim annonçaient la suite de Donjon, qui est en gros l'une des deux premières séries que je me suis mis à suivre personnellement, donc pas les BD que je lisais de mon papa, que je me suis mis à lire sur les conseils de mon vieux pote Victor, qui est devenu Victor Lejeune, qui est devenu auteur de bande dessinée.
Victor qui est devenu Victor Lejeune, wow.
Victor Lejeune qui est devenu auteur de bande dessinée, dont je vous pousse à aller voir le travail parce que c'est magnifique ce qu'il fait.
C'est vrai.
Et qui m'avait fait découvrir Donjon. Et donc Donjon reprend après je ne sais plus combien d'années d'absence. Et c'est Boulet qui va ouvrir le bal. Et donc il faisait le Twitch de la couverture du nouveau tome de Zénith, donc le tome 7 qui sortira en janvier 2020. Il y aura un autre Donjon qui sortira en janvier également. Et durant ce Twitch, il racontait pas mal de choses assez intéressantes, et donc notamment la sortie de ce donjon. Pour ceux qui auraient suivi à l'époque, il y avait eu un donjon clé en main, qui était un jeu de rôle adapté.
Mon premier jeu de rôle d'ailleurs.
Ouais, bah moi aussi, bon, on l'avait découvert ensemble.
Exact.
À l'époque. Et qui sera donc écrit par la fille de Svar et dessiné et écrit par le fils de Trondheim. Donc ensemble, qui sont des gros joueurs de jeux de rôle, et dessinés par Trondheim et Svar. Ils ont proposé plein de noms d'auteurs qui auraient pu ou qu'ils auraient aimé avoir en dessinateur de donjons. Ils ont proposé à pas mal de monde. Je crois que Moebius a été cité à un moment pour un projet de bonus aussi qui aurait été dirigé par Boulet. Bon, malheureusement.
Moebius a décidé de décéder, donc il a fait ce mauvais choix.
Ouais.
ce qui est dommage. Il y a eu le nom de Mignola qui est sorti aussi. Ils avaient proposé à Mignola qui avait dit ouais, je suis chaud. Et puis bon, a priori, ils avaient proposé ça en 2000. La Trondheim disait que selon lui, 2001, il y avait eu les attentats et que du coup, il avait décliné. Il voyait ça comme lien. Moi, je me demande si c'est pas carrément le fait que en 1999 sort Hellboy, les premiers issues, ouais, et qu'en fait sa série a décollé,
entre-temps,
qui est parti sur autre chose.
Il est devenu un peu quelqu'un d'autre.
Ouais, mais on aurait pu avoir un donjon de Mignola.
Bah, en fait, ça serait ultra pertinent, quoi.
Ouais, super classe.
Ouais.
Et puis voilà, non. Qu'est-ce que t'as retenu, toi, de tout ça ?
Moi, j'ai retenu. Alors, il parle énormément de l'industrie et tout ça pendant ses streams, et c'est super intéressant. Et ça m'a donné juste très envie d'inviter Boulet dans Comics Outcast.
Clairement.
Et
moi, ça me plairait bien qu'on l'invite à la sortie du coup du prochain donjon. Ce serait tellement
du
ouf.
Prochain donjon ou du Bolshoï, tu vois. Enfin, à voir. Ouais. Mais c'est un homme plein d'actualité et super sympa et très
intéressant.
Très intéressant.
Très cultivé,
donc ça serait vraiment chouette. Je le mets dans la to-do.
Nous le souhaitons.
Est-ce que moi je vais me remettre un peu de crème solaire?
Ouais, là je suis allée vous chercher des glaces.
Ah. Ouh, les glaces de Lulu.
Donc petite pause glace. Ensuite on chroniquera mon comics qui est le meilleur. Pour vous ça sera dans probablement 2 semaines. Pour nous ça sera dans 5 minutes. En attendant, pause glace.
Sam, chocolat ça te va?
Je préfère la vanille.
Ok, je te donne la vanille. Adrien, menthe, puisque t'as un dégoût de...
Menthe chocolat.
Menthe chocolat.
Allez.
Allez, je te la donne sans problème. Et je garde le petit sorbet framboise.
Sorbet framboise. On vous fait des gros poutous. Et d'ici là, eh bien, bouillard.
Bouillard.